Et oui, des stats, des statistiques, on va parler statistiques, et on ne sera pas les seuls, parce qu'il y avait plus de 500 statisticiens qui s'étaient réunis cette semaine à l'Université Laval, à Québec. Et pour plonger dans leur univers, commençons là où les chiffres sont omniprésents, le monde de l'argent. Alors souvenez-vous, le 6 mai dernier, les marchés financiers ont vécu ce qu'on a qualifié de crash éclair. Le Dow Jones a perdu 1000 points en 20 minutes. Ils ont regagné tout aussi vite. Il suffisait de savoir où on achetait, on vendait, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le mystère, en fait, plane toujours, c'est curieux. Mais l'enquête se poursuit, Sophie André.
Oui, et parmi les fins limiers qui sont sur la piste d'une explication, il y a le récipiendaire du prix Nobel d'économie 2003, ouais. Robert Engel. Monsieur Engel participait au congrès de la Société statistique du Canada à Québec comme conférencier. Il est spécialiste de la volatilité des marchés et il a mis la science de la statistique à contribution pour développer des outils pour mieux prédire la volatilité. C'est une volatilité qui s'est d'ailleurs inexplicablement emballée le 6 mai dernier, une volatilité aussi qui a joué au début de la dernière crise financière. À ce sujet, le prix Nobel d'économie Robert Engel.
When people find out that I forecast volatility and that I measure risk, they always ask me, did you see this crisis coming?
Quand les gens apprennent que je prévois la volatilité et que je mesure le risque, ils me demandent toujours « Avez-vous vu cette crise venir ?» Et oui, nous l'avons vu. Nos prédictions étaient aussi justes pendant la crise financière qu'à tout autre moment, mais il s'agissait de prédictions sur une journée. On était arrivé à prévoir la crise financière une journée à l'avance. Évidemment, on aimerait prévoir plus longtemps à l'avance. Alors, en ce moment, je travaille à trouver comment obtenir des prédictions à plus long terme. Et je crois que la statistique a beaucoup à contribuer.
That's what I'm working on right now. And I think actually when we start looking at these events like the May 6th event,
pour des événements comme ceux du 6 mai, avec le crash éclair, on parle d'ordinateurs, on parle de millisecondes. On ne parle pas vraiment de comportement humain. Et pourtant, on trouve qu'il y a eu de l'instabilité. Alors, c'est notre façon de programmer les ordinateurs qui est en jeu. L'interaction entre les ordinateurs aussi. Et ça, c'est une nouvelle frontière. Cet événement nous fournit une fenêtre sur le fonctionnement des marchés financiers dans le futur. Il ne sera plus possible pour des individus de prendre leur temps pour décider avec des échelles de temps si courtes. Il faudra qu'ils décident à l'avance et c'est l'ordinateur qui appliquera leur décision.
Le prix Nobel d'économie Robert Engel, donc, qui est professeur à la New York University. Alors, on va continuer, Sophie André, d'explorer l'univers des statistiques et des statisticiens. Il y a un autre champ d'application de cette science-là qui est la recherche médicale. On comprend qu'avec de vastes études, par exemple, sur de très grands échantillons de population, la statistique devient indispensable pour faire parler les données.
Des données très nombreuses, mais parfois, vous savez, en recherche médicale, c'est exactement le contraire, Yannick. Parfois, c'est pas le grand nombre de données qu'il faut gérer avec la statistique, c'est leur petit nombre. Et faire parler des petits échantillons, c'est le travail du statisticien Patrick Brown d'Action Cancer Ontario.
Il y a parfois des taux de cancer élevés près des sites industriels et aussi beaucoup plus de fumeurs vers ces sites. Alors, une question que j'étudie, c'est est-ce qu'il y a plus de cancer qui est causé par le fumée? Est-ce qu'il y a un excès de cancer vers les sites industriels ou non? Aussi, quand on n'a pas beaucoup de données, dans une ville, on n'a pas beaucoup de cancer chaque année, ou si on divise la ville en petites parties, on a peut-être un ou deux cas de cancer dans chaque petite région. Alors, il faut vraiment des bonnes méthodes statistiques et des bons modèles pour tirer l'information et résoudre les problèmes. Pour moi, ce qui est intéressant est qu'on n'a pas assez de données pour faire cela et on a besoin des modèles spatiaux où on utilise l'information des régions autour de notre région. C'est-à-dire que le risque de cancer varie d'une façon très régulière et on peut faire un modèle statistique de comment la variation du cancer va aller. Et on peut utiliser les données de régions autour de notre région pour faire des inférences. Pour nous, les statistiques, on pense souvent peut-être que les statisticiens sont des personnes qui ont des tables et des tables de numéros. Mais pour nous, sinon, c'est des mathématiques et des ordinateurs. Alors, on a besoin qu'il y ait des jeunes qui étudient des mathématiques, des ordinateurs.
Et c'est aussi parler des humains et de la santé des humains. Ce n'est pas désincarner tout ça, la statistique.
C'est à cause de ça que j'ai étudié les statistiques. Je trouvais que j'étais bon en mathématiques, je pouvais savoir quoi faire avec les numéros, mais je voulais faire quelque chose qui soit plutôt appliqué ou avec des vrais êtres humains et résoudre des vrais problèmes. Et j'aime bien la statistique pour faire cela.
Un appel donc à la relève, hein, il faut le dire, de Patrick Brown, pour ceux en tout cas qui n'ont pas peur des maths, parce qu'il y a des maths en stats, mais qui veulent aussi améliorer comme lui le sort de l'humanité.
Absolument, oui. Ou le sort des animaux aussi, oui. Parce que la statistique s'amène aussi dans la forêt ou dans la mer. Louis-Paul Rivet en sait quelque chose parce qu'il a consacré une bonne partie de sa carrière au dénombrement des populations animales. Ses travaux lui ont d'ailleurs valu la médaille d'or de la Société statistique du Canada cette année. Alors oubliez le papier et les crayons, il faut des modèles mathématiques complexes pour estimer les populations de caribous, de saumons, de ratons laveurs ou de cerfs.
C'est clair que pour trouver un bon modèle, il faut vraiment être en contact étroit avec ceux qui vont sur le terrain, donc avec les biologistes qui sont en charge de cet inventaire-là. Puis, ce n'est pas seulement un exercice théorique, c'est un exercice appliqué. Moi, j'ai commencé à travailler sur le cerf, sur l'île d'Anticosti, et puis l'objectif, ce n'était pas un objectif purement académique, c'était un objectif, on voulait savoir combien il y avait de cerfs pour émettre des quotas de chasse.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait sur l'île d'Anticosti, par exemple?
Alors, bien, sur l'île d'Anticosti, déjà, les biologistes avec qui je travaillais, ils savaient que, en fait, la seule façon de les compter, c'était de faire un inventaire du haut des airs. Donc, on a choisi l'hélicoptère. Il y avait des biologistes qui survolaient des zones d'Anticosti, puis qui comptaient les cerfs qu'ils voyaient.
On connaît la méthode des sondages où on va choisir des échantillons de la population. Vous avez fonctionné de la même façon avec un territoire. Vous avez choisi des petites bandes, des échantillons de territoire qui étaient représentatifs de l'ensemble.
Oui, tout à fait. En fait, c'est sur le plan conceptuel, c'est le même principe, finalement. Choisir au hasard des répondants pour un sondage standard, puis choisir au hasard des placettes sur lesquelles on va compter les cerfs. Sur le plan mathématique, c'est pareil. Moi, ça fait quand même, disons, 25 ans que je suis à l'Université Laval. Alors là, puis c'est un domaine qui m'intéressait. Donc, j'ai travaillé avec des biologistes qui travaillaient sur le saumon. J'ai travaillé avec des gens du caribou, raton laveur. Donc, j'ai passé à peu près toutes les espèces. Chacune avait ses caractéristiques propres. Mais quand même, à chaque occasion, là, il y avait toujours une espèce de modèle mathématique qu'on pouvait dégager pour aider le biologiste à faire un bon inventaire.
Louis-Paul Rivet, qui est professeur en statistique à l'Université Laval à Québec. Alors, on l'a vu jusqu'à maintenant, hein, des stats dans les marchés financiers, dans la recherche en santé, en biologie animale, oui.
Oui, puis on en trouve aussi en génie.
Ah, mais pourquoi pas.
Comment construire des digues, des barrages qui soient adaptés à toutes les conditions auxquelles ils seront soumis, même aux épisodes extrêmes de précipitation. Eh bien, il faut colliger les données qui sont disponibles et trouver les données qui sont manquantes. Les explications d'Anne-Catherine Favre, professeure au département de mathématiques et statistiques à l'Université Laval, et de Luc Perrault, qui est chercheur en statistique à Hydro-Québec.
Ces décisions sont prises dans un contexte incertain, mais la statistique, c'est la science des incertitudes. Donc, on travaille, par exemple, sur des modèles qui permettent de prévoir soit à court terme ou à long terme les débits d'une rivière donnée ou d'un bassin versant donné pour pouvoir donc assurer les décisions les meilleures. Les précipitations, évidemment, sont un intrant majeur des modèles hydrologiques et des modèles probabilistes qui permettent d'anticiper le futur. Et aussi, ce qui est important, mais de bien quantifier l'incertitude de cette prévision-là, parce qu'une prévision toute seule, et pour un gestionnaire, c'est inutile. Ça prend une marge d'erreur pour pouvoir prendre une décision éclairée. On fait deux types de prévisions. On fait des prévisions de court terme pour pouvoir prendre des décisions, évidemment, de court terme, où on doit turbiner de manière optimale pour produire le maximum d'énergie, mais aussi pour s'assurer de la sécurité, évidemment. Puis aussi, un aspect plus long terme, où on cherche à caractériser les événements hydrologiques extrêmes pour pouvoir mieux dimensionner, par exemple, un nouvel ouvrage, comme par exemple pour la Romaine.
Et dans ce cadre-là, quelque chose qui est très important à tenir compte maintenant, c'est les potentiels changements climatiques. Comment dimensionner un ouvrage hydraulique, par exemple dans le cas d'Hydro-Québec, dans un contexte où il y a potentiellement un changement climatique qui va apparaître dans le futur? Ce sont ce genre d'études que l'on fait de concert avec Hydro-Québec. Est-ce que les ouvrages actuellement déjà dimensionnés sont suffisants pour assurer la sécurité? Oui, ils ne le sont pas, et en tenant compte évidemment des incertitudes qu'on a, des incertitudes à la fois climatiques et des incertitudes statistiques. Et on pense que l'incertitude climatique va être plus importante que l'incertitude statistique. En fait, à mon avis, dans ce domaine-là, on en est au premier balbutiement, en fait.
Anne-Catherine Favre de l'Université Laval et Luc Perrault d'Hydro-Québec, tous deux participaient, comme d'ailleurs tous vos autres invités, Sophie André, au congrès de la Société de statistique du Canada. Ça se passait à Québec plus tôt cette semaine.
C'est le cas aussi pour Jeffrey Rosenthal. Avec lui, c'est le monde des probabilités qu'on va découvrir. Il est professeur de statistique à l'Université de Toronto. Il a écrit un livre grand public sur les probabilités qui s'intitule « Struck by Lightning, The Curious World of Probabilities ». Il explique que nous évaluons tous des probabilités statistiques constamment, mais nous commettons des erreurs.
Par exemple, on va penser que les choses qui sont très peu probables sont plus probables qu'ils sont. Si on achète un billet de loterie et on pense, oui, j'ai une bonne chance à gagner, mais vraiment, c'est peut-être une chance sur 14 millions qui est presque impossible et il ne faut pas même penser à ça. Ou bien on va penser, oh, c'est probable que je serai tué par les voleurs cette année parce que c'est un monde dangereux. Et en réalité, c'est très peu probable que ça va se passer aussi. Ou en fait, il y avait à Toronto, il y avait beaucoup de piétons qui étaient tués dans un mois, il y a quelques mois. Et les gens m'ont demandé, est-ce que ça veut dire que c'est maintenant plus dangereux de marcher à Toronto? Est-ce qu'il faut changer la vie? Et qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que les voitures sont maintenant plus agressives et tout ça? Et j'ai étudié et j'ai dit, non, c'est juste par hasard. Parfois, il y aura plus de morts dans un mois et moins de morts dans le prochain mois. Et c'est ce qui s'est passé.
Quels sont les enjeux d'actualité? À quoi est-ce que travaillent, par exemple, les statisticiens comme vous dans le monde des probabilités?
Il y a plusieurs connexions et plusieurs sujets modernes qui utilisent beaucoup de probabilités, comme la finance et l'assurance et plusieurs choses comme ça. Pour moi, j'étudie des algorithmes avec des ordinateurs et pour calculer des choses, on peut penser que les ordinateurs sont très scientifiques et logiques et il n'y a pas de choses aléatoires, il n'y a pas de probabilités. Mais en effet, nous avons appris que nous pouvons utiliser les probabilités et des choses aléatoires pour mieux calculer des choses et pour mieux utiliser des ordinateurs. Et nous les appelons les algorithmes Monte Carlo, c'est nommé pour le casino à Monaco, et c'est l'idée d'utiliser les chiffres aléatoires pour mieux calculer des choses très compliquées. Alors, ça veut dire que les probabilités peuvent nous aider partout.
Évidemment. Jeffrey Rosenthal, donc, et les nombres aléatoires à la rescousse des ordinateurs. C'est beau, ça.
Là où nous savons tous que les statistiques abondent, c'est dans les sondages, les enquêtes auprès de la population. Ça, on connaît. Statistique Canada, par exemple, effectue environ 350 enquêtes par année. Mais pour que les données qui émanent de ces enquêtes soient valables, il faut que les sondages soient valables. Et dans un monde où la technologie change vite, la science des enquêtes, elle aussi, elle doit changer vite. Julie Prépanier, directrice adjointe à la division des enquêtes auprès des ménages à Statistique Canada.
La plupart de nos enquêtes à Statistique Canada sont faites sur une base volontaire. On a besoin de la collaboration des gens pour y répondre. Par contre, on comprend la situation actuelle. Les gens sont de plus en plus occupés, donc il y a d'autres problématiques aussi qui émergent. La présence des téléphones cellulaires, par exemple, fait que les gens n'ont plus nécessairement de ligne à la maison. Donc, on a plus de difficultés à rejoindre des gens. Donc, il faut être innovateur. Et c'est là que la science entre en jeu, que la méthodologie d'enquête entre en jeu pour trouver des façons de continuer à avoir des réponses de nos gens, parce que c'est comme ça qu'on va produire des statistiques aussi de qualité. Un des domaines dans lequel on veut mettre beaucoup d'efforts, c'est tout ce qu'on appelle la recherche dans les activités de collecte. Trouver des façons de voir qu'est-ce qui est déterminant au niveau de la collecte pour obtenir la collaboration des gens, pour obtenir une réponse. Donc, on analyse beaucoup. Maintenant, vous savez, avec l'informatique, on a des outils puissants. On est capable de suivre l'évolution d'un processus de collecte, de savoir si on fait un appel en soirée, qu'est-ce qui se passe, on le fait le matin. Donc, c'est d'analyser toutes ces données-là. C'est des données de processus, puis modéliser, puis essayer de voir qu'est-ce qui va prédire le plus possible une réponse en bout de ligne. L'autre chose, par exemple, évidemment, on passe à l'ère de la technologie, on passe à des modes de collecte, ce qu'on appelle multimode, collecte électronique, collecte par téléphone, collecte en personne. Et c'est évident qu'il y a aussi un défi statistique à ce niveau-là. Comme moi, si par exemple, je veux recueillir le poids d'une personne pour faire une enquête sur la santé ou quoi que ce soit, bien, si je vous téléphone puis je vous demande votre poids, vous allez me dire quelque chose. Si je vais vous rencontrer en personne, peut-être que vous allez me dire autre chose. Puis si vous êtes tout seul devant votre ordinateur puis vous devez répondre à une question comme ça, bien, peut-être que vous allez me dire légèrement quelque chose d'autre. C'est normal. L'humain est ce qu'il est. Ceci étant dit, ça veut dire que ça crée des différences dans les données, dépendamment de l'outil de collecte qu'on utilise. Donc, il faut travailler avec ça.
Julie Trépanier de Statistique Canada. Effectivement, ce serait presque trop simple, hein, Sophie André, si tous les sondages pouvaient se faire par Internet, non?
Ce serait surtout inexact, parce que les sondages Internet ne sont pas représentatifs de la population, parce que tout le monde ne peut pas y participer, tout le monde n'est pas encore branché. Alors, les sondeurs forment des panels de participants qui sont considérés comme représentatifs, mais qui n'équivalent pas à un échantillonnage statistique. C'est pour ça que vous ne devriez jamais lire ou entendre parler de la fameuse marge d'erreur lorsqu'on vous livre des résultats d'un sondage qui a été effectué sur Internet. Vous ne devriez pas, par exemple, entendre parler de marge d'erreur à l'émission Le Verdict, à la télévision de Radio-Canada, une émission qui confronte des vedettes à des résultats de sondage qui ont été menés à leur sujet. C'est d'ailleurs une erreur qui a été commise en ondes et que l'association Recherche Intelligente Marketing a fait corriger tout de suite après la première émission du Verdict. Michel Saunier préside le chapitre du Québec de cette association de sondeurs professionnels.
On ne doit pas mettre de marge d'erreur pour un sondage par Internet. La majorité des sondages par Internet, comme ils ne sont pas représentatifs de la population, la marge d'erreur vient des techniques statistiques pour avoir une marge d'erreur. Donc, il faut avoir échantillonné nos gens. La majorité des sondages par Internet, on n'échantillonne pas des gens. Donc, on ne devrait jamais voir une marge d'erreur associée à un sondage par Internet. À moins que ça soit spécifié que le sondage par Internet soit un sondage probabiliste où les gens ont été choisis au hasard, dans la population, etc. À ce moment-là, on peut mettre une marge d'erreur. Mais actuellement, la grande majorité, très, très, très grande majorité des sondages par Internet, on ne doit pas avoir de marge d'erreur.
Parlez-nous un peu de ces panels qu'on trouve. On essaie de trouver des gens qui sont représentatifs de la population, mais il y a des gens qui ont étudié les panels et on a peut-être des surprises de ce côté-là aussi.
Oui, il y a beaucoup de surprises dans les panels parce que les panels, les entreprises mettent des annonces un petit peu partout, des bandeaux sur Internet, on les recrute, on leur offre de l'argent, on leur offre des points, etc. Et on est venu à se poser des questions sur les professionnels de panels. On a remarqué qu'un très gros pourcentage d'individus appartenaient à plusieurs panels. Pourquoi? Pour gagner des points, pour gagner des prix, pour recevoir des cadeaux, recevoir de l'argent. Et là, on se retrouve avec des professionnels de panels. Donc, il faut faire attention, il faut être critique.
Si on regarde vers l'avenir, quand le téléphone est arrivé, les sondeurs professionnels devaient se méfier aussi du téléphone en disant qu'il y avait là un biais parce que tout le monde n'était pas branché au départ. Internet, c'est la même chose maintenant. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal comme méthode de sondage?
Cette affirmation-là est parfaitement exacte. Hein? Quand on a passé du papier au téléphone, ça a été un bouleversement. Quand on a passé du téléphone à le téléphone informatisé, ça a été un autre bouleversement parce qu'avant, c'était au téléphone, mais on complétait les sondages sur papier. Maintenant, tout est informatisé. Maintenant, on passe à Internet. Et pendant un certain moment, il y a eu une euphorie. On a dit, voilà, c'est la méthodologie ultime. On s'en va vers Internet. Il n'y aura plus d'autre chose. Et là, on s'est réalisé que finalement, ce n'était pas le nirvana. Ce n'était pas une panacée, les sondages par Internet. Donc, ce qu'on peut voir dans le futur, c'est qu'on converge vers des sondages qui vont être multicanaux. Via le téléphone cellulaire, avec les téléphones intelligents, les iPhones, les BlackBerry, via le téléphone conventionnel, via la poste. On commence à revoir des sondages par la poste. Et on voit que la technologie s'en va vers les sondages multicanaux.
Donc, Michel Saunier de l'association Recherche Intelligente Marketing qui fait des prévisions dans sa boule de cristal, il a combien de chances de succès, de réussir?
Oh, je lui en donnerais pas mal. On n'échappera pas aux sondages parce que vous savez, c'est comme la statistique, les sondages, ils sont partout.
Oui.
Et comme me le disait le directeur scientifique de ce congrès, les statisticiens sont en fait des traducteurs qui sont indispensables à la science. Ce sont eux et elles qui maîtrisent la boîte noire qu'il y a entre les données et les résultats des recherches. Ils font parler les chiffres, quoi.
Merci beaucoup, Sophie André.
Merci.